Qu'est-ce que la religion ? Léon Tolstoï, 1902. Toujours, dans toutes les sociétés humaines, à certaines périodes de leur existence, un temps arrive où la religion, d'abord toute puissante, déclinant ensuite de plus en plus, perd sa signification principale, et enfin prend une forme définitive où elle se fixe. Dès lors, son action sur la vie des hommes diminue progressivement. À pareilles époques, la minorité instruite, ne croyant pas à la religion existante, feint seulement d'y croire, trouvant que c'est nécessaire pour retenir les masses populaires dans les formes établies de la vie, et ces mêmes masses populaires, bien qu'elles se tiennent par l'inertie des formes, une fois établies de la religion, ne se guident déjà plus d'après les exigences de cette même religion, mais seulement d'après les coutumes populaires et les lois de l'État. Il en fut souvent ainsi dans diverses sociétés humaines. Mais il n'y eut jamais rien de pareil à ce qui se passe maintenant dans notre société chrétienne. La minorité riche, dominante, plus instruite, possédant la plus grande influence sur les masses, non seulement ne croit pas à la religion existante, mais est convaincue que, dans notre temps, il n'est besoin d'aucune religion, et au lieu d'inspirer aux hommes qui doutent de la véracité de la religion professée, une doctrine quelconque plus raisonnable et plus claire que celle qui existe, elle leur inspire que la religion, en général, a vécu son temps, qu'elle est devenue aujourd'hui une institution non seulement inutile, mais nuisible à l'existence des sociétés, de même que le cas comme dans l'organisme de l'homme. Ces hommes étudient la religion non comme une chose que nous connaissons par la réflexion intérieure, mais comme un événement extérieur, comme une maladie dont certains hommes sont atteints, et que nous ne pouvons étudier que par les symptômes extérieurs. La religion, selon certains de ces hommes, provient de l'animation de tous les phénomènes de la nature, animisme, selon les autres, de la représentation de la possibilité des relations avec les ancêtres, selon les troisièmes, de la peur devant les forces de la nature. Et, disent les savants de notre temps, puisque la science a prouvé que les arbres et les pierres ne peuvent être animés, que les ancêtres morts ne sont plus ce que font les vivants, et que les phénomènes de la nature sont expliqués par les causes naturelles, alors disparaît la nécessité de la religion, et de toutes les entraves que les, grâce aux croyances religieuses, les hommes s'imposèrent. D'après l'opinion des savants, il y eut une période d'ignorance, celle-ci, religieuse. Cette période depuis longtemps déjà a été franchie par l'humanité, et il n'en reste plus que de rares indices ataviques. Ensuite vint la période métaphysique, qui elle aussi a vécu. Maintenant, nous, les hommes éclairés, nous vivons dans la période scientifique, dans la période de la science positive, qui remplace la religion et conduit l'humanité à un si haut degré de développement qu'elle n'aurait jamais pu l'atteindre, en restant soumise aux doctrines superstitieuses, religieuses. Au commencement de 1901, l'illustre savant français, Berthelot, prononça un discours dans lequel il communiqua à ses auditeurs l'idée que le temps de la religion est déjà passé, et qu'elle doit être maintenant remplacée par la science. Je cite ce discours, car c'est le premier qui me tombe sous la main, et parce qu'il fut prononcé dans la capitale du monde instruit par un savant reconnu de tous. Mais la même idée s'exprime sans cesse et partout, en commençant par les traités de philosophie jusqu'aux feuilletons des journaux. Dans ce discours, Berthelot dit qu'auparavant, des moteurs, la force et la religion, poussaient l'humanité, mais que maintenant, ces moteurs sont devenus superflus, puisqu'à leur place, il y a la science, et sous ce mot « science », évidemment Berthelot, comme tous ceux qui croient en la science, entend telle science qui embrasse tout le domaine des connaissances humaines liées harmoniquement entre elles, classées selon le degré de leur importance, et possédant de telles méthodes, que toutes les données qu'elle trouve constituent une vérité indiscutable. Mais puisqu'en réalité, une pareille science n'existe pas, et que ce qu'on appelle la science n'est que la réunion des connaissances éparses, sans lien, souvent complètement inutile et qui non seulement ne représente pas la vérité absolue, mais constitue parfois les erreurs les plus grossières, données aujourd'hui comme la vérité est contredite demain, alors, évidemment, il n'existe pas cet objet qui, selon Berthelot, doit remplacer la religion. Aussi, l'affirmation de Berthelot, et des personnes qui pensent comme lui, que la science doit remplacer la religion, est-elle tout à fait arbitraire, et basée sur une foi que rien ne justifie, sur la foi en la science impeccable, tout à fait analogue à la foi en l'Église impeccable. Et cependant des hommes, qu'on appelle savants, et qui sont tenus pour tels, sont tout à fait convaincus qu'il existe déjà une pareille science, qui doit et peut remplacer la religion, et l'a déjà supprimée. La religion a vécu, croire en quelque chose, en dehors de la science, c'est l'ignorance. La science établit tout ce qui est nécessaire, et pour guide dans la vie, elle seule, suffit pense et soutiennent les savants et même des gens de la foule, qui, bien que fort loin de la science, croient aux savants, et affirment avec eux que la religion est une superstition morte, et qu'il est nécessaire de se guider dans la vie par la science seule, ou en d'autres termes, par rien, puisque la science par son but même, l'étude de tout ce qui est, ne peut donner aucun manuel de la vie des hommes. Les savants de notre temps ont décidé que la religion n'est pas nécessaire, que la science la remplacera, ou l'a remplacée déjà, et cependant, maintenant comme autrefois, aucune société humaine, aucun homme raisonnable, ne vécut et ne peut vivre sans religion. Je dis l'homme raisonnable, parce que l'homme non raisonnable peut, ainsi que l'animal, vivre sans religion. L'homme raisonnable ne peut vivre sans religion, parce que c'est la religion seule, qui lui donne le guide nécessaire de ce qu'il doit faire, et lui indique dans quel ordre il doit le faire. L'homme raisonnable ne peut vivre sans religion, précisément parce que la raison est le propre de sa nature. Chaque animal se guide dans ses actes, outre les actes auxquels l'entraînent les besoins directs de la satisfaction de ses désirs, par la considération de leurs suites immédiates. En calculant ses conséquences par les moyens de connaissance qu'il possède, l'animal fait concorder ses actes, avec ses conséquences et toujours, sans hésitation, agit conformément à ses calculs. Ainsi, par exemple, l'abeille va chercher le miel et l'apporte dans sa ruche parce que, l'hiver, elle aura besoin de la nourriture recueillie pour elle et sa progéniture, et elle ne sait rien, et ne peut rien savoir au-delà de ses considérations. De même agit l'oiseau qui construit son nid, ou qui émigre du nord au sud et inversement. De même agit tout animal, qui accomplit un acte ne découlant pas de ses besoins directs, immédiat, mais duquel dépendent certaines conséquences. Il en va autrement de l'homme. La différence entre l'homme et l'animal est, en ce que les capacités intellectuelles de l'animal se bornent à ce que nous appelons l'instinct, tandis que la principale faculté intellectuelle de l'homme, c'est la raison. L'abeille qui cherche sa nourriture ne peut avoir aucun doute sur le point de savoir s'il est bien ou mal de la trouver. Mais l'homme, en cueillant la moisson ou les fruits, ne peut pas ne pas se demander s'il ne détruit pas pour l'avenir la croissance du blé ou des fruits, ou si par cette récolte il n'enlève pas la nourriture nécessaire à son prochain. Il ne peut pas non plus se dispenser de songer à ce qu'il adviendra de ses enfants qu'il élève. Les questions les plus importantes de la conduite de la vie ne peuvent pas, pour un homme intelligent, être résolu définitivement et exactement à cause du grand nombre de conséquences qu'il lui est impossible de ne pas remarquer. Tout homme intelligent, s'il ne le sait pas, sans que dans les questions les plus importantes de la vie, il ne peut se guider ni par l'impulsion spontanée de ses sentiments, ni par des considérations sur les résultats les plus proches de son activité, parce qu'il les voit en trop grand nombre et souvent contradictoires. C'est-à-dire qu'il voit des résultats qui ont des chances égales d'être bienfaisants ou malfaisants pour lui et pour les autres hommes. Une légende raconte qu'un ange descendit sur la terre, dans une famille très pieuse, et y tua un enfant au berceau, et que quand on lui demanda le pourquoi de cet acte, il expliqua que cet enfant serait devenu un grand malfaiteur, et eût fait le malheur de sa famille. Mais la question n'est pas seulement celle-ci. Quelle vie humaine est utile, inutile, nuisible? Et toutes les questions les plus importantes de la vie ne peuvent être résolues par un homme intelligent, d'après les considérations de leurs relations et de leurs résultats les plus proches. L'homme raisonnable ne peut pas se contenter des considérations qui guident les actes des animaux. L'homme peut se considérer comme un animal parmi les animaux qui vivent au jour le jour. Il peut se considérer aussi comme membre de la famille, de la société et du peuple qui vivent les siècles. Il peut, et même il doit absolument, parce que sa raison l'y entraîne irrésistiblement, se considérer comme une partie du monde infini qui vit dans le temps infini. C'est pourquoi l'homme raisonnable devait faire et fit toujours envers les événements intimes de la vie susceptibles d'influencer ses actes, ce qu'on appelle en mathématiques intégrer, c'est-à-dire qu'il établit, outre son rapport envers les phénomènes les plus proches de la vie, son rapport envers tout le monde infini dans le temps et dans l'espace, en le comprenant comme une unité. Et cet établissement du rapport de l'homme à ce tout, dont il se sent une partie, et duquel il tire le guide de ses actes, est ce qu'on appelait et appelle la religion. C'est pourquoi la religion fut toujours, et ne peut cesser d'être, la nécessité et la condition inéluctable de la vie d'un homme raisonnable, et de l'humanité raisonnable. La religion fut toujours comprise ainsi, par les hommes non privés des capacités de la conscience supérieure, c'est-à-dire religieuse, qui distingue l'homme de l'animal. La définition la plus ancienne, et la plus habituelle, de laquelle vient le mot lui-même, religio, religur, lié, est celle-ci. La religion est le lien entre l'homme et Dieu. Les obligations de l'homme envers Dieu, voilà la religion, dit Vauvenargue. Schleiermacher attribue à la religion la même signification, ainsi que Feuerbach en reconnaissant que la base de la religion, c'est la conscience qu'a l'homme de sa dépendance envers Dieu. La religion est une affaire entre chaque homme et Dieu. Belle. La religion est le résultat des besoins de l'âme et des effets de l'intelligence. Benjamin Constant. La religion est un certain moyen pour l'homme de réaliser son rapport envers les forces surhumaines et mystérieuses desquelles il se croit dépendant. Goblet d'Alvilla. La religion, c'est la définition de la vie humaine par le lien de l'âme humaine avec cet esprit mystérieux, dont la domination sur le monde et sur l'individu est reconnue par l'homme, et avec lequel il se sent uni. Révélé. De sorte que l'essence de la religion fut toujours comprise, et se comprend encore, par les hommes non privés des qualités humaines supérieures. Comme l'établissement, par l'homme, de son rapport envers l'être infini, ou envers les êtres dont il sent sur lui le pouvoir. Et ce rapport, bien que différent pour les divers peuples, et suivant les époques, a toujours défini pour les hommes leur destination dans le monde, destination d'où procédait naturellement le guide de leur activité. L'hébreu comprenait ainsi son rapport envers l'infini. Il était membre du peuple choisi par Dieu entre tous les peuples, et pour cette raison il devait observer, envers Dieu, le pacte conclu par Dieu avec ce peuple. Le grec comprenait son rapport de telle sorte que lui, étant sous la dépendance des représentants de l'infini, des dieux, devait leur être agréable. Le Brahman comprenait ainsi son rapport envers l'infini Brahma. Il est la manifestation de ce Brahma, et il doit, par l'abdication de sa vie, aspirer à se confondre avec cet être supérieur. Le bouddhiste comprenait et comprend ainsi son rapport envers l'infini. En passant d'une forme de la vie dans l'autre, il doit souffrir inévitablement. Les souffrances proviennent des passions et des désirs. Il doit donc aspirer à la destruction de tous les désirs et passions, et à son passage au nirvana. Chaque religion est ce qui établit le rapport de l'homme envers l'existence infinie à laquelle il se sent attaché, et d'où il tire le guide de son activité. C'est pourquoi, si la religion n'établit pas le rapport de l'homme envers l'infini, comme l'idolâtrie ou la magie, par exemple, ce n'est déjà pas une religion, mais seulement sa dégénérescence. Si la religion, bien qu'établissant le rapport de l'homme envers Dieu, l'établit par des affirmations ne concordant pas avec la raison et le savoir actuel des hommes, en sorte que l'homme ne peut croire en ces affirmations, ce n'est pas non plus une religion, mais un semblant de religion. Si la religion ne lie pas la vie de l'homme avec l'existence infinie, ce n'est pas non plus une religion. De même, ce n'est pas une religion, celle qui exige une foi d'où ne découle pas la direction définitive de l'activité de l'homme. La vraie religion, c'est, concordant avec la raison, et avec le savoir de l'homme, le rapport établi par lui envers la vie infinie qui l'entoure, qu'il est sa vie, avec cet infini et le guide dans ses actes. Bien que partout, et toujours les hommes n'aient pas vécu, et ne vivent pas sans religion, les savants de notre temps disent, comme le médecin malgré lui, de Molière, qui affirme que le foie est du côté gauche, nous avons changé tout cela, et affirme qu'on peut, et qu'il faut vivre sans religion. Mais la religion reste ce qu'elle était, le moteur principal, le cœur, l'organisme vital de la société humaine, et sans elle, comme sans le cœur, il ne peut être de vie raisonnable. Il y eut, et il y a beaucoup de religions diverses, parce que l'expression du rapport de l'homme envers l'infini, envers Dieu, ou les dieux, est différente selon le temps et le degré du développement des divers peuples, mais jamais aucune société d'hommes, depuis que les hommes sont devenus des êtres raisonnables, ne pouvait vivre, par conséquent ne vivait pas, et ne peut vivre sans religion. Il est vrai que dans la vie des peuples, il y eut, et il y a des périodes, où la religion existante fut si dénaturée, et si en retard sur la vie que déjà, elle ne la guidait plus, mais, cette cessation de son influence sur la vie des hommes, qui se produit pour chaque religion à certaines époques, n'était que temporaire. La religion, comme tout ce qui vit, a la propriété de naître, de se développer, de vieillir, de mourir, de renaître, et de reparaître toujours sous une forme plus perfectionnée que la forme précédente. Après la période de développement supérieur de la religion, arrive toujours la période de son affaiblissement, de son arrêt après lequel suit ordinairement la période de résurrection, et l'établissement d'une doctrine religieuse plus raisonnable et plus claire qu'auparavant. De semblables périodes de développement, d'arrêt et de résurrection se retrouvent dans toutes les religions. Quand la profonde religion brahmine commença à vieillir et à se pétrifier dans les formes grossières, une fois établi et qu'il éloignait de son sens initial, parurent, d'un côté, la résurrection du brahmanisme, et de l'autre, la doctrine élevée du bouddhisme qui activait la compréhension par l'humanité de son rapport envers l'infini. La même chose eut lieu pour les religions grecques et romaines, et aussitôt après le dernier degré de la décadence, parut le christianisme. Il en fut de même, avec le christianisme ecclésiastique, qui se transformait à Byzance en idolâtrie, en adoration d'une foule de dieux, quand, pour contrepoids de ce christianisme dénaturé, parut d'un côté le polycianisme, et de l'autre, contraire à la doctrine de la Trinité et de la Vierge Mère, le sévère mahométisme avec son dogme fondamental d'un Dieu unique. La même chose a eu lieu avec le christianisme papal du Moyen Âge, qui provoqua la réforme. De sorte que les périodes d'affaiblissement des religions, au point de vue de leur influence sur la majorité des hommes, sont la condition nécessaire de la vie et du développement de toutes les doctrines religieuses. Cela provient de ce que chaque doctrine religieuse, dans son vrai sens, quelque grossier qu'il soit, établit toujours un rapport égal pour tous les hommes, entre l'homme et l'infini. Chaque religion reconnaît l'homme également infime devant l'infini, et c'est pourquoi chaque religion comprend toujours la conception de l'égalité de tous les hommes, devant ce qu'elle considère comme Dieu, que ce soit la foudre, le vent, l'arbre, l'animal, le héros, l'empereur défunt ou même vivant, comme c'était à Rome. De sorte que la reconnaissance de l'égalité des hommes est une qualité générale, fondamentale de chaque religion. Mais puisqu'en réalité, nulle part et jamais n'exista, et n'existe l'égalité des hommes, alors, aussitôt que paraît une nouvelle doctrine religieuse, qui contient toujours en soi la reconnaissance de l'égalité de tous les hommes, aussitôt, des hommes pour qui l'inégalité était avantageuse, s'efforcent de cacher cette qualité fondamentale de la doctrine religieuse en la dénaturant. Ainsi fut fait, partout et toujours, quand parut une nouvelle doctrine religieuse, et le plus souvent ce n'était pas fait consciemment, mais seulement parce que les hommes dominants, riches, pour qui l'inégalité des hommes était avantageuse, car elle leur permettait de conserver leur situation, se sentaient le droit, devant la doctrine admise, de tâcher, par tous les moyens, d'attribuer à la doctrine religieuse une signification d'après laquelle l'inégalité serait admise. Et une telle dénaturation de la religion, d'après laquelle les dominants pouvaient se croire dans leurs droits, transmise naturellement aux masses, inspirée aussi à ces masses, que leur soumission à ce qui domine est une des exigences de la religion qu'ils professent. Toute activité humaine est provoquée par trois causes impulsives, le sentiment, la raison, la suggestion, ce même état que les médecins appellent l'hypnose. Parfois l'homme n'agit que sous l'influence du sentiment en aspirant d'atteindre à ce qu'il désire. Parfois il agit sous l'influence de la raison qui lui montre ce qu'il doit faire. Parfois et le plus souvent, l'homme agit parce que lui-même, ou les autres hommes, lui ont inspiré une certaine activité, et qu'inconsciemment il se soumet à cette suggestion. Dans les conditions normales de la vie, les trois mobiles concourent à l'activité de l'homme. Le sentiment l'entraîne vers une certaine activité. La raison contrôle la conformité de cette activité avec le milieu ambiant, avec le passé, et avec l'avenir supposé, et la suggestion force un homme à exécuter, sans sentir et sans penser, les actes excités par le sentiment, et approuvés par la raison. Sans le sentiment, l'homme n'entreprendrait rien. Sans la raison, il s'adonnerait en même temps à beaucoup de sentiments contradictoires et nuisibles à lui-même et aux autres, sans la capacité de se soumettre à sa suggestion et à celle des autres. L'homme devrait sans cesse éprouver le sentiment qui le pousserait à une certaine activité et soumettre sa raison au contrôle de l'opportunité de ses sentiments. C'est pourquoi ces trois mobiles sont nécessaires pour tout acte humain. Si simple soit-il. Si l'homme marche d'un endroit à l'autre, cela vient de ce que le sentiment le poussant à passer d'un endroit à un autre, la raison a approuvé cette intention et prescrit le moyen de l'accomplir. Dans l'exemple actuel, la marche par un certain chemin, et les muscles du corps obéissent, et l'homme suit le chemin indiqué. En même temps, quand il marche, le sentiment et la raison se rendent libres pour une autre activité, ce qui ne pourrait être sans la capacité de se soumettre à la suggestion. Il en est ainsi pour toutes les activités humaines, et de même pour la plus importante, pour l'activité religieuse. Le sentiment excite le besoin d'établir les rapports de l'homme envers Dieu, la raison définit ce rapport, la suggestion pousse l'homme à l'activité qui découle de ce rapport. Mais cela n'a lieu que si la religion n'a pas encore subi de déformation. Car aussitôt qu'en commence la dénaturation, la suggestion grandit de plus en plus, et l'influence du sentiment et de la raison s'affaiblit. Les moyens de suggestion sont partout, et toujours les mêmes. Ces moyens consistent à profiter de cet état, où l'homme est le plus capable d'être l'objet de la suggestion, l'enfance, les événements importants de la vie, mort, naissance, mariage, et par les œuvres d'art, d'architecture, de sculpture, de peinture, de musique, de représentation dramatique, dans cet état de réceptivité semblable à celui qui s'obtient pour l'homme en particulier par le sommeil provoqué, pour lui inspirer ce qui est désirable à celui qui suggère. On peut observer ce phénomène dans toutes les vieilles religions, dans la doctrine élevée des Brahmes, qui dégénéra en l'adoration grossière d'images innombrables en divers temples, sous l'accompagnement des chants et de l'encens, dans la religion juive antique, qui était propagée par les prophètes, et se transforma dans l'adoration de Dieu en un temple somptueux, avec les chants solennels et les processions, dans la doctrine élevée du bouddhisme qui, avec les monastères et les images de Bouddha, les rites solennels innombrables, se transforme dans le mystérieux lamaïsme, et dans ce tsaoïsme, avec sa magie et ses exorcismes. Toujours, dans toutes les doctrines religieuses, quand elles commencèrent à être déformées, leurs gardiens employèrent tous leurs efforts à amener les hommes à l'état d'affaiblissement de l'activité raisonnable, afin de leur inspirer ce qui leur convenait. Et dans toutes les religions, il fallait inspirer les trois principes qui servent de base à toutes les altérations que subissent les religions vieillissantes. Premièrement, qu'il y a des hommes d'une espèce particulière qui seuls peuvent être intermédiaires entre les hommes et Dieu ou les dieux. Deuxièmement, que des miracles ont eu lieu et ont lieu qui prouvent la véracité de ce que disent les intermédiaires entre les hommes et Dieu. Et troisièmement, qu'il y a certaines paroles, transmises verbalement ou inscrites dans les livres qui expriment la volonté immédiate de Dieu ou des dieux, et qui, à cause de cela, sont saintes et impeccables. Et, dès que sous l'influence de l'hypnose, ces propositions sont acceptées, alors déjà ce que disent les intermédiaires entre Dieu et les hommes est accepté comme une sainte vérité. Et alors le but principal de l'altération de la religion est atteint, non seulement la dissimulation de la loi de l'égalité des hommes, mais aussi le rétablissement et l'affirmation de l'inégalité la plus grande, la division en castes, des hommes et des goïmes, des fidèles et des infidèles, des saints et des pécheurs. La même chose se fit, et ce fait dans le christianisme, on admit une complète inégalité des hommes entre eux, divisée non seulement au point de vue de la compréhension de la religion, le clergé et le peuple, mais aussi dans le sens de la situation sociale, la division entre les hommes qui ont le pouvoir, et ceux qui doivent se soumettre à ce pouvoir, division que la doctrine de saint Paul reconnaît comme établie par Dieu lui-même. L'inégalité des hommes entre eux, non seulement du clergé et des laïcs, mais des pauvres et des riches, des maîtres et des esclaves, est établie par la religion chrétienne ecclésiastique sous une forme aussi définie et aussi dure que dans les autres religions. Et cependant, à en juger par les données que nous avons sur l'état primitif du christianisme, selon la doctrine exprimée dans les évangiles, il semble que les principaux moyens d'altération employés par les autres religions étaient prévus et qu'un avertissement fut exprimé clairement contre eux. Contre l'ordre des prêtres, il est dit tout carrément qu'aucun homme ne peut être le maître d'un autre. Ne vous appelez pas les pères et les maîtres. Point virgule. Contre l'attribution du caractère sacré aux Écritures, il est dit que l'esprit est important, et non la lettre, que les hommes ne doivent pas croire aux traditions humaines, et que toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire tous les livres considérés comme la Sainte Écriture, se réduit à cela, à agir envers les autres, comme on veut que les autres agissent envers soi. Si rien n'est dit contre les miracles, et si dans l'Évangile même des miracles sont décrits comme accomplis par Jésus, on voit toutefois, par tout l'esprit de la doctrine, que Jésus a basé la véracité de la doctrine non sur les miracles, mais sur la doctrine elle-même, qui veut savoir, si ma doctrine est vraie, fasse ce que je dis. Et principalement le christianisme proclame l'égalité des hommes et non plus déjà, comme une conséquence du rapport des hommes envers l'infini, mais comme une doctrine fondamentale de fraternité de tous les hommes, puisque tous les hommes sont reconnus comme les enfants de Dieu. Il semblerait donc qu'on ne puisse dénaturer le christianisme de façon à détruire la conscience de l'égalité des hommes entre eux. Mais l'esprit humain est fertile, et, consciemment ou demi-consciemment, fut inventé un moyen tout nouveau, un truc, comme disent les Français, pour rendre inefficaces les avertissements des évangiles et la proclamation claire de l'égalité de tous les hommes. Ce truc consiste en ceci, on attribue l'impeccabilité non seulement à une certaine lettre, mais aussi à une certaine réunion d'hommes, qu'on appelle l'Église, et qui a le droit de transmettre cette impeccabilité aux hommes qu'elle choisit. On a inventé un petit supplément aux évangiles, à savoir que le Christ, en montant au ciel, a transmis à certaines personnes le droit exclusif, non seulement d'enseigner aux hommes la vérité divine, selon la lettre du verset de l'évangile, il a transmis en outre le droit dont on ne jouit pas ordinairement, de n'être pas mordu par les serpents, d'être rebelle à tous les poisons et au feu, mais aussi de sauver, ou non des hommes, et principalement de transmettre ce droit à d'autres hommes. Et dès que la conception de l'Église fut fermement établie, alors tous les principes évangéliques devinrent inefficaces à en empêcher l'altération, puisque l'Église était supérieure à la raison et aux écrits tenus pour sacrés. La raison était reconnue comme une source d'erreur, et l'Évangile interprété non, comme le demande, le bon sens, mais comme le voulaient ceux qui composaient l'Église. C'est pourquoi les trois anciens moyens d'altération de la religion, le sacerdoce, les miracles, l'impeccabilité des Écritures, étaient aussi admis dans toute leur force par le christianisme. Ils reconnaissaient la légalité de l'existence des intermédiaires entre Dieu et les hommes, puisque l'Église en avait reconnu la nécessité et la légalité. Ils reconnaissaient la réalité des miracles, puisque l'Église impeccable en témoignait. La Bible était reconnue pour sacrée, puisque l'Église le déclarait. Et le christianisme était altéré comme toutes les autres religions, seulement avec cette différence que, précisément parce que le christianisme proclamait avec une clarté particulière, son principe fondamental de l'égalité de tous les hommes, comme enfants de Dieu, il lui était donc nécessaire de défigurer fortement toute la doctrine pour en masquer le principe fondamental. Avec l'aide de la conception de l'Église, c'est précisément ce qui fut fait, et sur une échelle que n'atteignit jamais aucune autre doctrine religieuse. En effet, jamais aucune religion ne propagea un principe, si évidemment en désaccord avec la raison, et le savoir actuel des hommes, et aussi immoral, que celui que propage le christianisme de l'Église. Sans parler déjà de toutes les inepties de l'Ancien Testament, comme la création de la lumière avant le soleil, la création du monde, il y a 6000 ans, la réunion de tous les animaux dans l'arche, et divers faits immoraux dans le genre de la prescription du meurtre des enfants et de populations entières, par l'ordre de Dieu, sans même parler de ce sacrement inepte, qui faisait dire à Voltaire, « Il y avait, et il y a beaucoup de doctrines religieuses ineptes, mais jamais il n'en exista une, dans laquelle le principal acte religieux consistant à manger son Dieu, sans parler déjà qu'il ne peut être rien de plus absurde que la mère de Dieu, en même temps mère et vierge, que le ciel s'ouvrant et laissant entendre des voix, que le Christ montant au ciel, où il se tient quelque part à droite de son Père, que Dieu est un et trois, et non trois dieux comme Brahma, Vishnu, et Shiva, mais un seul, et en même temps, trois. Que peut-il y avoir de plus immoral que cette doctrine effroyable selon laquelle Dieu, méchant et vindicatif, punit tous les hommes pour le péché d'Adam, puis, pour les sauver, envoie son Fils sur la terre, en sachant d'avance que les hommes le tueront, et que, pour cela, ils seront maudits, que le moyen pour les hommes d'être sauvés du péché consiste à être baptisés, et à croire que tout est arrivé précisément de cette façon, et que le Fils de Dieu a été tué par les hommes pour le salut des hommes, et que Dieu punit par des souffrances éternelles ceux qui ne croient pas cela. De sorte que, sans même parler de ce que quelques-uns considèrent comme le supplément des dogmes principaux de cette religion, comme toutes les croyances en diverses reliques, icônes de diverses Notre-Dame, prières commandeuses adressées à divers saints, selon leur spécialité, sans parler aussi de la doctrine de la prédestination des protestants, les bases mêmes de cette religion établie par le symbole de Nicée, reconnue par tous, sont si ineptes et immorales, et sont jusqu'à tel point en contradiction avec le bon sens et la raison, que les hommes n'y peuvent croire. Les hommes peuvent répéter des lèvres certaines paroles, mais ils ne peuvent croire en ce qui n'a pas de sens. On peut dire des lèvres, « Je crois que le monde a été créé, il y a 6000 ans », ou « Je crois que le Christ est monté au ciel, et qu'il est assis à la droite du Père », ou « Que Dieu est un, et en même temps trois », mais personne ne peut y croire, parce que ces paroles n'ont aucun sens. C'est pourquoi les hommes de notre monde qui professent le christianisme dénaturé, en réalité ne croient-ils à rien. Et c'est la particularité de notre temps. Les hommes de notre temps ne croient en rien, et en même temps, par cette définition mensongère de la foi qu'ils tirent des épîtres aux Hébreux, attribuées faussement à Paul, ils imaginent qu'ils ont la foi. La foi, selon cette définition, c'est la réalisation de l'attendu et la certitude en l'invisible. Mais sans parler déjà que la foi ne peut être la réalisation de l'attendu, puisque la foi, c'est un état d'âme, et que la réalisation de l'attendu est un fait extérieur. La foi n'est pas non plus la certitude de l'invisible puisque cette certitude, comme il est expliqué plus loin, est basée sur la confiance au témoignage de la vérité. Et la confiance et la foi sont deux conceptions différentes. La foi n'est ni l'espoir ni la confiance, c'est un état d'âme particulier. La foi, pour l'homme, c'est la conscience d'avoir dans le monde telle situation, qui l'oblige à certains actes. L'homme agit selon sa foi, non parce que, comme il est dit dans le catéchisme, il croit dans l'invisible comme dans le visible, et non parce qu'il espère recevoir l'attendu, mais seulement parce qu'en définissant sa situation dans le monde, il agit naturellement en accord avec cette situation. De sorte que le cultivateur laboure la terre, le navigateur s'aventure sur la mer, non parce que, comme il est dit dans le catéchisme, l'un et l'autre croient dans l'invisible, ou espèrent recevoir une récompense de leur activité, cette espérance existe, mais ce n'est pas elle qui les guide, mais parce qu'ils croient que cette activité est leur vocation. De même, le croyant agit d'une certaine façon, non parce qu'il croit dans l'invisible, ou attend la récompense de ses actes, mais, parce qu'ayant compris sa situation dans le monde, il agit naturellement en accord avec cette situation. Si un homme a défini sa situation dans la société, qu'il soit manœuvre, artisans, fonctionnaires ou marchands, alors ils croient nécessaire de travailler et travaillent comme un manœuvre, comme un artisan, comme un fonctionnaire ou comme un marchand. De même, l'homme, en général, ayant défini de telle ou telle façon sa situation dans le monde, inévitablement et naturellement agit d'accord avec cette définition. Parfois ce n'est pas même une définition, mais une conscience vague. Ainsi, par exemple, l'homme, en définissant sa situation dans le monde, comme membre du peuple choisi par Dieu, qui, pour jouir de la protection divine, doit satisfaire aux exigences de Dieu, vivra pour remplir ses exigences. Un autre, ayant défini sa situation dans le passage en diverses formes de l'existence, est convaincu que de ses actes dépend plus ou moins son avenir meilleur ou pire, se guidera dans la vie par cette définition. La conduite d'un troisième qui a défini sa situation, l'agglomération fortuite des atomes sur laquelle, pour un certain temps, s'est enflammée la conscience qui doit se détruire pour toujours, sera différente de celle des deux premiers. La conduite de ces hommes sera complètement différente, parce qu'ils ont défini différemment leur situation, c'est-à-dire, parce qu'ils croient différemment. La foi est la même chose que la religion, avec cette différence que sous le mot religion nous comprenons le phénomène observé à l'extérieur, et que par la foi, nous désignons le même phénomène éprouvé par l'homme en lui-même. La foi, c'est le rapport reconnu par l'homme envers le monde infini duquel découle la direction de son activité. C'est pourquoi la vraie foi n'est jamais irraisonnable, jamais en désaccord avec le savoir existant, et son propre ne peut être le non-naturel et l'insensé, comme le pensait et l'exprima un père de l'Église en disant « Credo quia absurdum ». Au contraire, les affirmations de la vraie foi, bien qu'elles ne puissent pas être prouvées, non seulement ne contiennent rien de contraire à la raison et en désaccord avec le savoir humain, mais toujours explique ce qui, dans la vie, paraît, sans les principes de la foi, irraisonnable et contradictoire. Ainsi, par exemple, l'hébreu antique qui croyait à l'existence d'un être supérieur, éternel et omnipotent, créateur du monde, de la terre, des animaux, de l'homme, et qui avait promis de protéger son peuple, si ce peuple accomplissait sa loi, ne croyait pas en quelque chose d'irraisonnable en désaccord avec son savoir, mais au contraire, cette croyance lui expliquait beaucoup de phénomènes de la vie inexpliqués sans cela. De même l'hindou qui croit que nos âmes étaient dans des animaux, et que selon notre vie bonne ou mauvaise, elles passeront dans les animaux supérieurs ou inférieurs, s'explique par cette foi beaucoup de phénomènes incompréhensibles sans elle. Il en va de même avec un homme qui croit que la vie est un mal, et que le but de la vie est le repos atteint par la destruction des désirs. Il croit non en quelque chose d'irraisonnable, mais au contraire en ce qui fait sa conception du monde plus raisonnable qu'elle ne le serait sans cela. Il en va de même avec un vrai chrétien, qui croit que Dieu est le Père spirituel de tous les hommes, et que le bien suprême de l'homme est atteint, quand il reconnaît sa filiation avec Dieu, et la fraternité de tous les hommes entre eux. Toutes ces croyances, si elles ne peuvent être prouvées, ne sont pas déraisonnables en soi, mais au contraire donnent le sens le plus raisonnable au phénomène de la vie qui paraissait irraisonnable et contradictoire sans ces croyances. En outre, toutes ces croyances, en définissant la situation de l'homme, exigent inévitablement certains actes correspondant à cette situation. C'est pourquoi, si une doctrine religieuse affirme des propositions insensées qui n'expliquent rien, mais ne font qu'embrouiller davantage la compréhension de la vie, ce n'est pas une foi, mais son altération qui a déjà perdu les qualités principales de la vraie foi, et non seulement n'exige rien des hommes, mais reçoit pour les hommes un caractère servile. Une des différences principales entre la vraie foi et sa dénaturation, c'est qu'avec la dénaturation de la foi, l'homme exige de Dieu qu'il remplisse ses désirs et le serve en échange de ses prières et de ses sacrifices. Avec la vraie foi, l'homme sent que Dieu veut de lui l'accomplissement de sa volonté et exige qu'il le serve. Et, cette foi, non seulement n'existe pas chez les hommes de notre temps, mais ils ne savent même pas ce que c'est et ils comprennent sous la foi ou la répétition verbale de ce qu'on leur donne comme l'essence de la foi ou l'accomplissement de rites qui les aide à recevoir ce qu'ils désirent comme le leur apprend le christianisme de l'Église. Les hommes de notre monde vivent sans aucune foi. Une partie des hommes, la minorité, riche, instruite, affranchie des suggestions de l'Église, ne croit en rien, parce qu'elle considère toute foi, ou comme une bêtise, ou seulement comme une arme utile, pour dominer les masses. L'énorme majorité, pauvre, ignorante, à l'exception près des quelques hommes qui croient réellement, se trouvant sous l'influence de l'hypnose, pense croire en ce qui lui est inspiré, sous l'aspect de la foi, mais qui n'est pas la foi, puisque non seulement elle n'en reçoit pas l'explication de sa situation dans le monde, mais n'en est que plus obscurcie. La vie de notre monde, dit chrétien, est faite de cette situation et du rapport réciproque entre la minorité non-croyante qui feint et la majorité hypnotisée. Et cette vie, celle de la minorité qui tient, entre ses mains les moyens d'hypnose, ainsi que celle de la majorité hypnotisée, est terrible par la cruauté et l'immoralité des dominants, et par l'oppression et l'abrutissement des grandes masses ouvrières. Jamais à aucune époque de chute religieuse, le déteint et l'oubli de la qualité essentielle de chaque religion, et surtout de la religion chrétienne, de l'égalité des hommes, n'atteignirent le degré qu'ils ont atteint de notre temps. La cause principale de l'horrible cruauté contemporaine de l'homme envers l'homme, outre l'absence complète de religion, est encore dans cette complexité raffinée de la vie qui cache aux hommes les conséquences de leurs actes. Quelque cruels qu'aient été les Attila, les Tchinghis Khan et leurs soldats, quand ils tuaient des hommes, eux-mêmes, face à face, le procédé de l'assassinat devait leur être désagréable, et encore plus désagréable. Les conséquences du meurtre, les gémissements des parents, la présence des cadavres, de sorte que ces conséquences de la cruauté la modéraient. En notre temps, nous tuons des hommes, avec une telle complexité de transmission, les conséquences de notre cruauté nous sont si soigneusement dérobées et cachées, qu'il n'y a rien pour brider cette cruauté, et la férocité des hommes entre eux s'accroîtant et tant, qu'elle est arrivée de nos jours à des limites, que jamais encore elle n'avait atteintes. Je pense que si de notre temps, non seulement un malfaiteur reconnu de tous, un errant quelconque, mais un simple entrepreneur, voulait faire un étang avec le sang humain, pour y faire baigner, selon la prescription de savants médecins, des riches malades, il le pourrait sans aucun obstacle, sous la condition d'y mettre les formes convenables, accepter, c'est-à-dire, de ne pas prendre par la force le sang des hommes, mais de les amener à une telle situation, que, même ne puissent se dispenser de le donner, et qu'en outre il ait soin d'inviter des prêtres, et des savants, les premiers pour bénir le nouvel étang, comme ils bénissent les canons, les fusils, les prisons, les gibets. Et les seconds, pour établir les preuves de la nécessité et de la légalité d'un tel établissement, de même qu'ils ont trouvé les preuves de la nécessité des guerres et des maisons de tolérance. Le principe fondamental de chaque religion, l'égalité des hommes entre eux, est à un tel point méconnu, délaissé et encombré par les dogmes ineptes de la religion professée, et dans la science celte même inégalité, sous l'aspect de la lutte pour l'existence, et de la survivance du mieux doué, the fittest, est à un tel point reconnu comme une nécessité de la vie, que la destruction de millions de vies humaines pour la commodité de la minorité dominante, est considéré comme un phénomène des plus ordinaires et nécessaires de la vie et se produit constamment. Les hommes de notre temps ne peuvent assez se réjouir des succès brillants, inouïs, énormes, obtenus par la technique au XIXe siècle. Sans aucun doute, jamais dans l'histoire, il n'y eut un tel succès matériel, c'est-à-dire un accaparement des forces de la nature, comparable à celui qui a été obtenu au XIXe siècle, mais nul doute aussi que jamais dans l'histoire, il n'y eut l'exemple d'une telle vie immorale, libre de toutes les forces bridant les aspirations bestiales de l'homme, dont on vit maintenant, en s'abrutissant de plus en plus, l'humanité chrétienne. Le succès matériel qu'ont atteint les hommes au XIXe siècle est vraiment grand, mais il est acheté, et s'achète par une négligence des obligations les plus élémentaires de la morale, négligence que l'humanité n'avait encore jamais atteinte, pas même au temps des Tchingis Khan, des Attila, des Néron. Sans aucun doute, les cuirassés, les chemins de fer, l'imprimerie, les tunnels, le phonographe, les rayons Röntgen, etc. sont excellents. Tout cela est très bon, mais aussi sont très bonnes, incomparablement bonnes. Comme disait Ruskin, les vies humaines qui, maintenant, sans merci, se perdent par millions pour la construction des cuirassés, des chemins de fer, des tunnels, qui non seulement n'ornent pas la vie, mais la gâtent. On objecte ordinairement à cela, qu'on a inventé, et que dans l'avenir seront inventés des procédés, grâce auxquels les vies humaines ne seront pas exposées comme maintenant. Mais ce n'est pas vrai. Si les hommes ne considèrent pas tous les hommes comme leurs frères, alors les vies humaines ne peuvent être considérées comme l'objet le plus sacré qui, non seulement ne peut être violé, mais que nous avons l'obligation principale, immédiate, de soutenir. C'est-à-dire que si les hommes ne se rapportent pas religieusement les uns envers les autres, toujours, pour leur avantage personnel, ils sacrifieront des vies humaines. Il n'y aura pas de sot qui consente à dépenser des milliers de francs, est-ce il peut atteindre le même but en dépensant une centaine de francs avec, en plus, quelques vies humaines qui se trouvent en son pouvoir. À Chicago, les chemins de fer écrasent annuellement le même nombre d'hommes, et les propriétaires des chemins de fer, tout à fait rationnellement, ne prennent pas les mesures avec lesquelles il y aurait moins d'accidents, en calculant que les sommes payées annuellement aux victimes et à leurs familles sont moindres que l'intérêt du capital nécessaire pour cette accommodation. Il est très possible que les hommes qui sacrifient des vies humaines pour leur avantage soient dénoncés par l'opinion publique ou forcés de faire des transformations. Mais si les hommes ne sont pas religieux et agissent en vue des hommes et non pour Dieu, alors, en faisant dans un endroit les transformations qui sauvegardent les vies humaines, ailleurs, de nouveau, ils profiteront des vies humaines comme du matériel le plus avantageux pour gagner de l'argent. C'est très facile de conquérir la nature et de construire des chemins de fer, des bateaux, des musées, etc. si l'on ne compte pas avec les vies humaines. Les rois d'Égypte étaient fiers de leurs pyramides, que nous aussi nous admirons, en oubliant les milliers de vies des esclaves dépensées à ces constructions. De même, nous admirons nos palais aux expositions, nos cuirassés, nos câbles océaniques, en oubliant ce que nous payons pour eux. Nous ne pourrions être fiers de toutes ces choses que si elles étaient faites librement par des hommes libres et non par des esclaves. Les peuples chrétiens ont conquis et soumis des Indiens d'Amérique, des Hindous, des Africains, et maintenant ils conquièrent et soumettent les Chinois et en sont fiers. Mais ces conquêtes et accaparements proviennent non de ce que les peuples chrétiens sont spirituellement supérieurs aux peuples conquis, mais au contraire de ce qu'ils sont, moralement, de beaucoup inférieurs à eux. Sans parler des Hindous et des Chinois, mais chez les Zoulous, existaient et existent des règles religieuses obligatoires qui prescrivent certains actes et en défendent d'autres. Et chez nous, peuple chrétien, il n'y a aucune règle. Rome a conquis le monde précisément quand il est devenu libre de toute religion. C'est, mais au plus haut degré, ce qui se passe maintenant avec les peuples chrétiens. Tous se trouvent dans la même condition, le manque de religion, et c'est pourquoi, malgré leurs désaccords intérieurs, sont-ils tous unis en une bande fédérative de brigands, pour qui le vol, le pillage, la débauche, l'assassinat isolé et en masse, se commettent non seulement sans le moindre remords de conscience, mais avec la plus grande satisfaction, comme on l'a vu dernièrement en Chine. Les uns ne croient en rien, et en sont fiers. Les autres feignent de croire en ce qui leur est avantageux, et, sous l'aspect de la foi, l'inspirent au peuple. Et les troisièmes, une énorme majorité, tout le peuple, accepte pour la foi cette suggestion sous laquelle ils se trouvent, et, servilement, obéissent à tout ce que demandent de leurs inspirateurs dominants, qui ne croient en rien. Et ces inspirateurs demandent ce que demandent tous les Nérons qui tâchent de remplir par quelque chose le vide de leur vie. Ils demandent la satisfaction de leur luxe fou, qui grandit de toutes parts. Or le luxe ne s'acquiert par rien d'autre que par l'asservissement des hommes. Aussitôt l'asservissement accompli, le luxe augmente, et l'augmentation du luxe inévitablement accélère l'asservissement, parce que seuls des hommes souffrant de la faim, du froid, de la misère peuvent faire toute leur vie ce dont ils n'ont nul besoin, et qui ne sert qu'au plaisir de ceux qui dominent.